Je voudrais maintenant introduire rapidement ce sujet dont je ne suis pas spécialiste, je tiens à le dire au départ, en essayant d'expliquer l'intitulé que nous avons choisi. Nous avons choisi comme intitulé « Les communs, un nouvel universalisme, point d'interrogation ». Alors, pourquoi les communs? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire à des gens que vous veniez à un séminaire ou quelque chose dont le sujet était les communs. Bon, en général, si on dit ça, on vous dit c'est quoi? Voilà, c'est quoi? Et alors, on se lance dans une grande explication dans laquelle on va définir déjà tous les champs, et on s'aperçoit que les champs du commun, évidemment, des communs, évidemment, c'est bien sûr la question du climat, c'est la question des terres, de l'eau, de tout ce domaine dont on voudrait montrer ou définir une limite au niveau de l'appropriation, des appropriations, mais c'est aussi la culture, c'est aussi l'éducation, la santé, le social, etc. Donc on est déjà sur un champ tellement important et qui implique tellement de disciplines et d'interdisciplinarité aussi, qu'à la fin, quand on a fini d'expliquer ça et qu'on vous regarde avec des gros yeux ronds du genre « mais c'est refaire tout le monde entier », on dit oui avec passion, c'est tout le rapport de l'homme au monde qui change, c'est tout le rapport à la société, c'est la question de la démocratie, c'est face aux impasses politiques que nous avons connues, qu'il s'agisse des expériences dites communistes, de collectivisme d'État, et face à l'impasse du capitalisme, voies qui ont été des voies productivistes, est-ce que là, on n'est pas face aussi à une troisième voie? À une troisième voie qui nous permet justement, après 30 ou 40 ans où on nous parle de la fin des utopies, une troisième voie qui nous permet peut-être de réinvestir l'utopie, ou en tous les cas la notion d'idée directrice qui nous permettrait de sortir de cette opposition, et je l'ai dit, de cette double impasse. Alors, en ce sens, et parce que c'est difficile à expliquer, la notion des communs, elle est tout à fait intéressante pour une université d'automne, parce que c'est bien de l'éducation populaire que de défricher un sujet nouveau. Ensuite, pourquoi penser cette question dans le cadre d'une association des droits de l'homme? Alors, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, on sait que la question du climat, celle des ressources, celle du vivant, c'est l'affaire du siècle, et donc c'est celle de l'homme. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'émergence de ce concept, c'est un concept qui a émergé à partir de pratiques d'abord, avant d'être théorisé. Donc on est bien dans quelque chose où on n'a plus d'opposition entre théorie et pratique, où vraiment les deux se nourrissent de façon fructueuse, mais aussi parce que, au fond, il y a une autre opposition que ce concept nous permet peut-être de dépasser. Tout ça, ce sont des hypothèses, ce sont des interrogations. C'est l'opposition entre les acquis liés à l'émergence de la reconnaissance de la personne et de l'individu en tant que souverain et détenteur de droits, et un rapport à l'humanité dans son ensemble, un rapport à la société et un rapport au monde. Donc ce n'est pas l'opposition entre holisme et individualisme, c'est plutôt repenser un rapport au monde qui ne dit pas on va remplacer la communauté humaine par l'individu, mais non, on va conserver les acquis de la liberté individuelle et des droits de l'homme, et puis on va les élargir, on va les ouvrir dans une vision qui déplace les choses, qui nous déplace en tant que nous restons des sujets, mais nous ne sommes pas des sujets face à des objets, c'est-à-dire à des objets que serait l'environnement, la terre, enfin tout ça qu'on a transformé en choses. Eh bien non, on déplace le sujet, on se déplace, nous sommes donc d'autres sujets. Alors, il y a aussi le fait que ça pose la question de l'inviolable, de l'inappropriable, de l'inexploitable. Et ça, c'est aussi un sujet des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'un sujet des droits de l'homme, c'est de dire il y a des choses auxquelles on ne touche pas, il y a des choses qui relèvent de la propriété même humaine, en tant que propriété humaine, évidemment, et pas propriété privée. Enfin, au-delà de la question des rapports propriété privée, propriété publique, propriété de tous et de personnes, qui sont cruciales, qui ne sont pas une nouvelle question, puisque la question des biens communs, elle est posée à l'humanité depuis ses débuts, évidemment, c'est un rapport à la commune humanité qui est en jeu, un rapport au cosmos pour certains, un rapport à la création pour d'autres. Je dis ça pour choquer un peu et pour dire que dans cette réinscription de l'humanité dans une histoire qui l'inclut dans ce qu'on appelle à tort l'environnement, il y a aussi sans doute une dimension de retour, de resacralisation, sans doute une dimension de resacralisation, et que finalement cette dimension est intéressante parce que elle nous rappelle que nous avons peut-être besoin, et que ce qu'on appelle par exemple le retour des religions qui ne sont jamais parties, nous avons peut-être besoin de retrouver un rapport plus humble, je dirais, avec tout ce qui nous entoure, avec le monde dans lequel nous vivons, avec le vivant, etc. etc. Enfin, une autre question qui est importante pour nous, Ligue des droits de l'homme, c'est que le climat, comme le disait Idriss, par exemple, n'est pas réductible à la technicité et à la science. C'est une question politique et de démocratie. C'est une question, donc, qui est une question des droits de l'homme. Quatrième point, enfin, je terminerai là-dessus. Nous savons que nous avons un processus de reconnaissance institutionnelle de ce qu'on pourrait appeler les droits de l'homme à l'environnement, à un environnement qui permette de survivre, tout simplement. Ce processus de reconnaissance institutionnelle, il est en décalage par rapport à l'évolution de la conscience mondiale. Il se réduit aujourd'hui aux notions de droit à la vie et à la santé, qui concernent finalement des individus ou des groupes ou des familles, etc., qui seraient concernés par des pollutions dans leur environnement, etc., confrontés à des nuisances. Mais malgré les traités internationaux, malgré la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, etc., il n'y a pas de reconnaissance formelle et globale de droits de l'homme qui seraient naturels ou environnementaux, qui sont relatifs aux biens communs ou environnementaux. Or, c'est là un enjeu de démocratie. Pourquoi c'est un enjeu de démocratie ? Parce que ces questions-là concernent tous les hommes, et il n'y a pas de démocratie sans séparation, renforcement de la séparation entre le politique et l'économique. Or, nous savons qu'autour de ces questions, évidemment, les lobbies économiques, etc., empêche la progression de l'idée, en tous les cas, sont en lutte. Il n'y a pas de démocratie sans des politiques qui soient contraints de dire la vérité. Or, nous savons que la vérité sur ces questions-là est pour le moins cachée, en tous les cas, qu'il y a un grand mensonge sur ces questions-là. Et enfin, il n'y a pas de démocratie sans citoyens éclairés et sans, nous semble-t-il, peut-être, et c'est ça qu'aussi ouvrent les communs, une revisitation du rapport entre une démocratie verticale, une conception verticale de la démocratie, et une conception horizontale, qui sont aussi, s'inscrivent encore une fois, à nouveau dans une troisième voie. Donc voilà les quelques raisons qui font que nous croyons, que nous pensons que cette université d'été, d'automne, c'est pas encore l'été, plutôt, que cette université d'automne sera un moment pour défricher toutes ces questions et sans doute pour arriver peut-être à élaborer, à réfléchir à quelle pourrait être la reconnaissance de droits de l'homme nouveau construit sur ces concepts. Merci.